Il alluma de nouveau sa lampe et la leva. Quelques sentiers secondaires, on les appelait des chicots, rayonnaient à partir de la piste. Devant lui, un écriteau fixé à un humble bouleau marquait l'un d'entre eux. Deux noms y étaient inscrits à la peinture noire. Cossington Marshley. Tim connaissait ces deux bûcherons. Peter Cossington, qui avait eu son comptant de malheur cette année-là, et Ernest Marshley étaient souvent venus souper au cottage des Ross. Et l'un comme l'autre avait souvent invité les Ross à souper chez eux. De braves gars, mais ils ne s'enfoncent jamais très loin, avait dit le grand Ross à son fils après l'un de ses repas. Il reste encore de beaux arbres de fer à proximité des Florus, mais les plus beaux, les plus purs, les plus denses, se trouvent quasiment au bout de la piste, à la lisière du Fagonard.
Bon, peut-être que je n'ai parcouru qu'une ou deux roues, mais dans le noir, ça change tout.
Il engagea Bitsy sur le chicot Cossington Marshley et, moins d'une minute plus tard, déboucha dans une clairière où le collecteur, assis sur une bûche, se réchauffait à son feu.
« Mais c'est le jeune Tim, dit-il. Tu as des couilles, ça oui, même si elles ne seront poilues que dans un an ou trois. Viens, assieds-toi et mange un peu de ragoût. »
Tim n'était pas sûr de vouloir partager le souper de cet homme des plus étranges. Mais il n'avait rien avalé, et le fumet montant de la marmite était fort appétissant. Comme s'il avait lu dans les pensées de son jeune visiteur, le collecteur déclara
« Je ne souhaite pas t'empoisonner, jeune Tim. »
« Je sais. »
Sauf qu'il n'en savait rien, en fait. Néanmoins, il ne fit aucune remarque lorsque l'autre lui servit une bonne portion dans une assiette en fer blanc, qui lui tendit ainsi qu'une cuillère cabossée, mais très propre. Ce ragoût n'avait rien de magique. On y trouvait du bœuf, des patates, des carottes et des oignons baignant dans un bouillon goûteux. Tout en mangeant, Tim regarda Bitsy qui s'approchait prudemment du cheval noir de son hôte. Celui-ci frôla les naseaux de l'humble mule, puis se détourna, quelque peu dédaigneux, songea Tim, pour s'attaquer à l'avoine que le collecteur avait placée devant lui après avoir évacué les copeaux laissés par Seyss Cossington et Marshley. Le collecteur ne dit pas un mot pendant que Tim mangeait son ragoût, se contentant de creuser le sol avec le talon de sa botte. Il avait posé près de lui la bassine qui trônait naguère au-dessus de sa guna. Tim avait peine à croire qu'elle était en argent, comme le lui avait dit sa mère, mais ses yeux ne le trompaient pas. Combien de barrettes faudrait-il fondre et forger pour obtenir un tel objet? Le talon du collecteur buta sur une racine. De sous sa cape, il sortit un couteau presque aussi long que l'avant-bras de Tim et trancha dans le vif. Puis il donna de nouveau du talon. Bang, bang, bang.
« Que cherchiez-vous ? » demanda Tim.
Le collecteur releva la tête le temps de lui lancer un sourire.
« Peut-être le trouveras-tu, ou peut-être pas, mais je crois que oui. Tu as fini de manger ? » ?»«
Oui, et je vous dis grand merci. »
Tim se tapota la gorge à trois reprises.
« C'était très bon. »«
Parfait. Fugaces les baisers, durables les bons plats. C'est ce qu'affirment les manies. Tu admires ma bassine à ce que je vois. Elle est belle, hein ? Une relique du garland de jadis. À Garland, il était des dragons, si fait, et leurs feux sont encore vivaces dans les profondeurs de la forêt sans fin. Je le crois. » « Et voilà, jeune Tim, tu as appris quelque chose. Plusieurs lions, cela fait une meute. Plusieurs corbeaux, un meurtre. Plusieurs bafouilleux, un bafouillage. Plusieurs dragons, un feu de camp. »
« Un foyer de dragons, »
dit Tim en savourant ces mots. Puis il comprit pleinement les propos du collecteur.
Si les dragons de la forêt sans fin restent dans ces profondeurs...
Mais le collecteur ne lui laissa pas le temps de finir.
Laisse là les songes creux. Prends cette bassine et va me chercher de l'eau. Tu en trouveras au bord de la clairière. Allume ta petite lampe, car la lueur du feu n'éclaire pas jusque-là, et il y a un pouki au creux d'un arbre. Il est fort dodu, ce qui veut dire qu'il a bien mangé il y a peu. Mais à ta place, je ne m'en approcherai pas trop. »
Il se fendit d'un nouveau sourire, que Tim jugea cruel, sans en être cependant surpris, puis conclut.
« Mais un garçon assez courageux pour s'enfoncer dans la forêt sans fin, avec pour seule compagnie la mule de son père, a le droit de faire ce qu'il veut. »
La bassine était bien en argent. Son poids ne permettait pas d'en douter. Tim la cala tant bien que mal sous son bras. De sa main libre, il brandit la lampe à pétrole. Comme il traversait la clairière, il sentit une odeur âcre et déplaisante et entendit un bruit de mastication qui semblait émis par plusieurs bouches. Il fit halte.
Cette eau ne fera pas l'affaire, Sai. Elle est stagnante.
Je n'ai que faire de tes conseils, jeune Tim. Remplis la bassine et fais attention au pouki, je te prie.
Le garçon s'agenouilla, posa la bassine devant lui et considéra le ruisseau aux eaux lentes. Il grouillait d'insectes blancs. Ils avaient une grosse tête et des yeux pédonculés. On aurait dit des larves aquatiques qui se faisaient la guerre. Au bout d'un temps, Tim vit qu'il s'entre-dévorait. Ça lui retourna l'estomac. Au-dessus de lui se fit entendre un bruit évoquant celui d'une main frottant du papier de verre. Il leva sa lampe. À sa gauche, à la plus basse branche d'un arbre de fer, était suspendu un gigantesque serpent rougeâtre. Il pointait sur lui sa tête triangulaire, qui était encore plus large que la plus grande poêle de sa mama. Ses yeux d'ambre, aux pupilles fendues, le fixaient d'un air endormi. Sa langue fourchue frétilla un instant, puis se rétracta dans sa gueule avec un bruit liquide. Tim se hâta de remplir la bassine d'eau puante. Mais comme il ne quittait pas des yeux le reptile au-dessus de lui, plusieurs bestioles rampèrent sur ses mains et se mirent à le mordiller. Il s'en débarrassa en poussant un hoquet de dégoût, puis rapporta la bassine près du feu de camp. Avec un luxe de précaution, il veilla à ne pas renverser une seule goutte de cette eau saumâtre et grouillante de vie.
« Si c'est pour boire ou pour se laver... »
Le collecteur inclina la tête sur le côté, attendant qu'il finisse sa phrase, mais Tim en était incapable. Il posa la bassine près de lui, remarquant que l'autre semblait avoir fini de creuser.
« Ni pour boire, ni pour se laver. Même si nous pourrions faire et l'un et l'autre, si l'envie nous en prenait. »«
Vous plaisantez, Sai. Cette eau est répugnante. »«
Le monde est répugnant, jeune Tim. Mais nous finissons par être immunisés, n'est-ce pas ? Nous respirons son air, mangeons sa provende, accomplissons sa volonté. »« Oui. » Si fait. Mais peu importe, prends place. »
Le collecteur lui indiqua où s'asseoir, puis fouilla dans sa guna. Fasciné mais écœuré, Tim regarda les insectes s'entre-dévorer. Allait-il continuer jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un, le plus fort de tous ?
Ah ! Nous y voilà !
Son hôte produisit une tige d'acier pourvue d'un bout en ivoire. Du moins le semblait-il, et s'accroupit face à lui avec la bassine entre deux. Tim considéra l'objet que tenait sa main gantée.
« C'est une baguette magique ?»
Le collecteur sembla réfléchir à la question.
« Sans doute, mais jadis c'était le levier de vitesse d'une Dodge Dart, la voiture la plus économique d'Amérique, jeune Tim. »«
C'est quoi l'Amérique ?»
Un royaume peuplé d'imbéciles entichés de leurs jouets. Cela ne concerne pas notre palabre. Mais sache une chose, et dis-la à tes enfants, si tant est que tu aies le malheur d'en engendrer. Dans de bonnes mains, n'importe quel objet peut devenir magique. Vois.
Le collecteur écarta sa cape pour libérer son bras et agita la baguette au-dessus des eaux troubles et infestées. Devant les yeux écarquillés de Tim, les bestioles se figèrent, flottèrent à la surface, disparurent. Un second passage et l'eau s'éclaircit. On aurait pu la boire à présent. Et Tim, stupéfait, se retrouva en train de fixer son reflet.
« Par les dieux, comment ?»«
Silence, jeune crétin ! Si tu troubles les eaux, tu ne verras plus rien. »
Le collecteur passa une troisième fois sa baguette au-dessus de la bassine, et le reflet de Tim disparut comme avant lui les insectes et l'eau trouble. À la place apparut l'image tremblante de son propre cottage. Il découvrit sa mère dans la cuisine et vit Bernkel s'approcher d'elle en titubant, en provenance du réduit où il rangeait sa malle. Nell se tenait entre la table et les fourneaux, vêtue de la chemise de nuit qu'elle portait lorsque Tim l'avait quittée. Les yeux de Kell s'étaient d'un jaune bilieux et injectés de sang. Ses cheveux clairsemés étaient plaqués sur son front. S'il s'était trouvé dans cette cuisine, songea Tim, il aurait senti l'odeur de gnôle qui l'enveloppait comme un banc de brume. Il remua les lèvres et Tim n'eut aucune peine à déchiffrer ses propos.
« Comment as-tu fait pour ouvrir ma malle ?»«
Non !»
voulut-il hurler.
« C'est pas elle, c'est moi !»
Mais sa gorge était paralysée.
« Ça te plaît ?»
chuchota le collecteur.
« Tu aimes mon petit spectacle ?»
Nell commença par se plaquer contre la porte du garde-manger, puis voulut s'enfuir en courant. Kells ne lui en laissa pas le temps, lui agrippant l'épaule d'une main et de l'autre lui empoignant les cheveux. Il la secoua comme une poupée de chiffon, puis la jeta contre le mur. Il se planta devant elle en vacillant, comme sur le point de tomber. Mais il tint bon. Et lorsque Nell fit une nouvelle tentative pour prendre la fuite, il s'empara de la lourde cruche en terre cuite posée près de l'évier, celle-là même où Tim avait prélevé de l'eau pour rafraîchir le visage de sa mère, et la battit violemment sur son front. Elle se fracassa en mille morceaux, et il se retrouva avec l'anse entre les doigts. Il la laissa choir, saisit son épouse et entreprit de la passer à tabac.
« Non !»
hurla Tim. L'eau se troubla et la vision s'effaça. Tim se leva d'un bond et fonça vers Bitsy, qui le regarda d'un air surpris. Le fils de Jack Ross se voyait déjà regagnant la piste du bois de fer, talonnant la mule jusqu'à ce qu'elle se mette à galoper. Mais le collecteur l'empoigna par la peau du cou avant qu'il ait fait trois pas et le ramena au feu de camp.
« Jeune Tim, ne sois pas si pressé. « Je t'en supplie. Notre palabre a bien commencé, mais elle est loin d'être finie. »«
Lâchez-moi ! Elle va mourir s'il ne l'a pas déjà tuée. »« Ou alors, est-ce que c'était un glam ? Une blague de votre cru ?»
Dans ce cas, songea Tim, c'était la blague la plus cruelle qu'on ait jamais faite à un garçon aimant sa mère. Pourtant, il espérait que c'en était une. Il espérait que le collecteur allait s'esclaffer et lui dire
« J'étais bien nu, pas vrai, jeune Tim ?»
Mais le collecteur secouait la tête.
« Ce n'est ni une blague, ni un glam, car cette bassine ne ment jamais. Ce que tu as vu est déjà arrivé, j'en ai peur. C'est horrible ce qu'un homme éméché peut infliger à une femme, n'est-ce pas ?» Mais regarde encore. Cette fois-ci, ce que tu verras a des chances de te consoler.
Tim tomba à genoux devant la bassine. Le collecteur agita sa baguette au-dessus de l'eau. Une brume sembla la voiler un instant. Mais peut-être était-ce dû aux larmes qui mouillaient les yeux de Tim. Quoi qu'il en soit, la lumière se fit. Il vit apparaître le perron de leur cottage, où une femme apparemment sans visage se penchait au-dessus de Nell. Lentement, lentement, en prenant appui sur elle, Nell réussit à se relever. La femme sans visage la tourna vers la porte d'entrée et Nell se dirigea péniblement vers elle.
« Elle est vivante !» s'écria Tim. « Ma maman est vivante !»«
En effet, jeune Tim, frappée, mais debout. Quoique un peu diminuée, non ?»
conclut-il en gloussant. Cette fois-ci, Tim avait veillé à ne pas troubler les eaux et la vision persista. Si la femme qui assistait sa mère semblait dépourvue de visage, comprit-il, c'était parce qu'elle portait un voile, et il reconnut le petit âne qui patientait au bord de l'image. Il s'était souvent occupé de Sunshine, l'avait nourri et nettoyé, ainsi que tous les autres écoliers de l'arbre. C'était leur façon à eux de rémunérer leur maîtresse, quoique Tim ne l'ait jamais vu enfourcher cette monture. Si on lui avait posé la question, sans doute aurait-il dit qu'elle en était incapable. Elle tremblait trop.
« C'est la veuve Smack. Qu'est-ce qu'elle fait chez nous ?»«
Tu devrais peut-être le lui demander, jeune Tim. »«
C'est vous qui l'avez envoyée ?»
Le collecteur fit non de la tête en souriant.
« J'ai quantité de passe-temps, mais secourir les damoiselles en détresse n'en fait pas partie. »
Il se pencha sur la bassine et son visage disparut dans l'ombre de son chapeau.
« Oh, mais on dirait qu'elle est toujours en détresse. Cela n'a rien de surprenant, c'est une sacrée correction qu'elle a reçue là. On dit que c'est dans les yeux que se lit la vérité, mais moi, je prétends que c'est dans les mains. Regarde ta maman, jeune Tim. »
Tim se pencha un peu plus. Soutenue par la veuve Smack, Nell traversa le perron, les mains tendues devant elle, en direction du mur plutôt que de la porte, alors que celle-ci était juste en face d'elle. La veuve Smack la remit doucement sur la bonne voie et les deux femmes entrèrent ensemble. Le collecteur fit claquer sa langue.
« Ça ne se présente pas très bien, jeune Tim. » Un coup à la tête peut faire de gros dégâts, même lorsqu'il n'est pas mortel. Des dégâts permanents. »
Ses paroles étaient empreintes de gravité, mais ses yeux luisaient d'une lueur malicieuse. Ce fut à peine si Tim le remarqua.
« Il faut que j'y aille. Ma mère a besoin de moi. »
Il tenta à nouveau de se précipiter vers Bitsy. Cette fois-ci, il fit une demi-douzaine de pas avant que le collecteur lui agrippe le bras. Sa main était une poigne de fer.
« Avant de partir, Tim, et je ne te retiendrai pas, je te demanderai de faire une chose pour moi. »
Tim eut l'impression qu'il devenait fou.
« Peut-être que je suis au lit avec la fièvre et que tout ceci n'est qu'un rêve. »
« Peut-être reverras-tu ma bassine. Qui sait? Mais pour le moment, va la vider dans le ruisseau. Mais pas à l'endroit où tu l'as remplie, car notre ami le Pookie s'agite un peu trop à mon goût. »
Le collecteur attrapa la lampe de Tim, en tourna la molette au maximum et la leva bien haut. Le serpent s'était laissé descendre sur presque toute sa longueur. Mais ses trois derniers pieds, la section au bout de laquelle était plantée sa tête triangulaire, oscillaient doucement de droite à gauche. Ses yeux d'ambre se rivèrent aux yeux bleus de Tim. Sa langue se darda. Et l'espace d'un instant, Tim entrevit deux longs crocs incurvés. Ils accrochèrent la lueur de la lampe.
« Va sur la gauche !» conseilla le collecteur. « Je t'accompagne pour monter la garde. »«
Vous ne pouvez pas la vider vous-même. Je veux retourner auprès de ma mère. Je dois... »«
Ce n'est pas à cause de ta mère que je t'ai fait venir ici, jeune Tim. »
Le collecteur sembla devenir gigantesque.
« Fais ce que je te dis. »
Tim attrapa la bassine et traversa la clairière. Le collecteur le suivit, la lampe à la main. et s'interposa entre lui et le serpent. Ce dernier tournait sa tête vers eux, mais ne semblait pas enclin à les suivre, alors qu'il aurait pu le faire sans peine en passant d'une branche à l'autre, tant elles étaient étroitement enchevêtrées.
Ce chicot fait partie de la concession Cossington-Marchley,
dit le collecteur sur le ton de la conversation.
Peut-être as-tu vu l'écriteau?
Si fait.
Un garçon qui sait lire. C'est un trésor pour la baronnie.
Le collecteur était si près de Tim à présent que celui-ci en eut la chair de poule.
Un jour, tu paieras de fortes taxes. À supposer, bien sûr, que tu ne périsses pas dans la forêt sans fin cette nuit, ou la prochaine, ou alors la suivante. Mais pourquoi guetter la tempête alors qu'elle est encore derrière l'horizon? Hein? Tu sais à qui appartient cette concession, mais j'en sais un peu plus que toi. Ce que je sais, je l'ai appris en faisant ma tournée, en même temps que l'histoire de Frankie Simone et de sa jambe cassée, du bébé des Wylands et de sa fièvre, des vaches des Riverly, décimées par la maladie du lait. Sauf qu'ils m'ont menti effrontément, on ne me le fait pas, moi. Et de quantité d'autres banalités tout aussi passionnantes. Que les gens sont bavards. Mais voici où je veux en venir, jeune Tim. J'ai appris qu'au début de la pleine terre, Peter Cossington s'était fait coincer sous un arbre qui est mal tombé. Ça leur arrive de temps à autre, surtout aux arbres de fer. Car les arbres de fer sont capables de penser. Tu peux m'en croire, et c'est pour cela que la tradition exige qu'on implore leur pardon avant de les abattre.
Je suis au courant pour l'accident de Cossington,
dit Tim. En dépit de son angoisse, il était curieux de savoir où allait mener cette conversation.
Ma maman leur a préparé de la soupe alors qu'elle portait le deuil de mon pas à ce moment-là. L'arbre lui est tombé sur le dos, mais il ne l'a pas écrasé. Ça l'aurait tué. Et alors, il va mieux maintenant.
Ils étaient arrivés près du ruisseau. Mais l'odeur était moins forte à cet endroit de la berge, et Tim ne voyait aucune bestiole dans l'eau. C'était une bonne chose, mais le Pouki continuait de les dévorer des yeux.
« Oui, Cosy le costaud a repris le boulot et nous disons tous grand merci. Mais pendant qu'il gardait le lit, il a été blessé 2 semaines avant que ton père rencontre le dragon et déclaré guéri 6 semaines après. Ce chicot est resté désert, ainsi d'ailleurs que la totalité de la concession Cossington-Marchley, vu qu'Ernie Marchley ne fait pas les choses comme ton beau-pas. À savoir qu'il ne va jamais sur la piste du bois de fer sans son associé. La différence, bien entendu, c'est qu'Ernie le Lambin en a un d'associé.
Tim se rappela la pièce pendue à son cou et la raison de sa présence ici.
Il n'y avait pas de dragon. S'il y en avait eu un, il aurait tout brûlé, y compris la pièce porte-bonheur de mon pas. Et qu'est-ce qu'elle faisait dans la malle de Kells?
Vide ma bassine, jeune Tim. Comme tu le constateras, il n'y a pas de bestiole dans l'eau pour t'embêter. Non, pas ici.
Mais je veux savoir, ferme ton caquet et vide ma bassine.
Car tu ne sortiras pas de cette clairière tant qu'elle sera pleine.
Tim s'agenouilla pour obtempérer, impatient d'en avoir fini avec cette corvée. Il se fichait bien de Peter Cossington, le costaud, et c'était sans doute aussi le cas de l'homme à la cape noire, si c'était bien un homme.
Il ne cherche qu'à me taquiner, ou alors à me torturer. Peut-être que c'est la même chose pour lui, mais dès que cette saleté de bassine sera vide, j'enfourche Bitsy et je retourne au galop à la maison, qu'il essaie seulement de m'arrêter, qu'il essaie...
Le fil de ses pensées se cassa net. Comme une brindille sous une botte. Il lâcha la bassine qui tomba dans l'herbe. Il n'y avait pas de bestioles dans cette partie du ruisseau. Le collecteur avait dit vrai sur ce point. Et l'eau était aussi claire que celle qui jaillissait de la source derrière leur cottage. Mais à 6 ou 8 pouces sous la surface, gisait le cadavre d'un homme. Ses vêtements étaient réduits à des lambeaux agités par le courant. Ses paupières avaient disparu, ainsi que la plus grande partie de ses cheveux. Son visage et ses bras, jadis hâlés, étaient d'une blancheur d'albâtre. Mais cela mis à part, le corps du grand Jack Ross était parfaitement conservé. N'eût été la vacuité de ses yeux sans paupières, Tim aurait pu croire que son père allait se redresser, tout dégoûtant, et le prendre dans ses bras. Le Pookie fit un nouveau. À ce bruit, quelque chose se brisa en lui, et il se mit à hurler.